Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous recevons Sally Akin. Sally Akin, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes professeur en analyse du discours et sociolinguistique à l'Université de Rouen. Vous êtes également directeur adjoint du laboratoire d'ILIS, qui est un laboratoire de recherche en linguistique. Et vous êtes directeur de la revue Études kurdes. Aujourd'hui, on vous reçoit essentiellement pour vous parler avec vous de votre dernier ouvrage qui a été publié, qui s'appelle « Introduction à la linguistique kurde », qui a été publié chez Lambert Lucas. Alors, moi, j'avoue que quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est quand même un gros pavé sur une question de linguistique, donc quelque chose qui est quand même assez pointu sur une langue que moi-même, je ne parle pas. Ça risque d'être un peu fastidieux à lire et je dois dire que pas du tout. Donc, déjà, bravo pour avoir réussi ce travail de vulgarisation. Première question importante, c'est, à votre sens, est-ce qu'il est plus pertinent de parler de la langue kurde ou des langues kurdes au pluriel ?
Cela dépend des points de vue ou des perspectives dans lesquelles on se situe. Donc, effectivement, l'émergence des langues standards telles qu'on les connaît en Occident, le français, par exemple, l'anglais, l'allemand, ce sont des langues qui ont réduit la variation, les différentes formes dialectales, avec la construction de l'État-nation. Donc cela s'est inscrit dans un processus historique et politique. Par exemple, pour le français, ça a commencé dès le 15e siècle avec le décret de Villiers-Cotterêts qui a obligé l'usage du français dans les actes civils. Ensuite, pendant la Révolution, on a accentué ce processus-là et progressivement, le français s'est imposé au détriment de ces formes dialectales et puis des langues régionales de France. Et donc, quand on regarde des langues ou des modèles de langues standards, des langues nationales en Occident, donc ce sont des modèles qui sont rattachés aux idées d'État-nation, avec une frontière, avec aussi des académies, des universités, enfin toute logistique qui soutient ces formes standards ou normalisées. Dans le cas des langues minoritaires ou minorisées, telles que le kurde, le berbère, le kabyle, les langues Rome, parlé par les Roms ou Tziganes, les Romani par exemple, on voit ce qui, ou même le Yiddish, ce qui saute aux yeux, c'est la variation. La variation, parce que comme il n'y a pas d'instance nationale pour standardiser, normaliser ou pour diffuser les formes standards de la langue à travers le médium de l'école, donc dans ce cas-là, effectivement, la langue varie. Dans l'espace, dans le temps, mais aussi à travers les phénomènes de contact. En Turquie, par exemple, le kurde est influencé par le turc. En Syrie, en Irak, c'est l'arabe qui va exercer des influences. Au Kurdistan d'Iran, c'est le persan. Et donc, du coup, ces phénomènes de contact rajoutés au phénomène de fragmentation, aux politiques linguistiques oppressives. Donc voilà, effectivement, ça fait que la langue n'est plus une, mais se manifeste à travers plusieurs formes. Et donc, dans le cas des Kurdes, on a quatre variétés plus ou moins nettement apparentées. Donc, et les deux variétés nettement apparentées, c'est le Kurmanji et le Sorani. Ensuite, il y a le Zazaki de Mulki, le Hauramani, Gorani, qui sont aussi très apparentés. Donc, effectivement, on peut parler d'une langue proto-kurde, donc qui serait à l'origine de toutes ces formes dialectales, mais on peut aussi parler d'une langue, hein, comme le font certains linguistes, Clamence Scalbert ou d'autres, même Françoise Rolland, compte tenu de l'évolution de ces variétés, compte tenu aussi des politiques linguistiques dont elles font l'objet, etc. Voilà. Mais à travers cette diversité, il y a quand même une unité linguistique, c'est-à-dire quand on regarde la syntaxe, la morphologie, c'est très proche. Le patrimoine lexical est commun à 90-80%. Et donc voilà, c'est souvent au niveau phonologie que les différences sont les plus importantes.
Du coup, je suis tiraillée parce que moi, pendant cette interview, il va falloir que je dise l'un ou l'autre. Et je suis un peu tiraillée entre deux principes, celui de la simplicité qui consisterait à dire le kurde et puis celui d'introduire de la complexité parce que souvent les personnes ne savent pas justement qu'il y a différentes formes de kurde et je pense notamment à des systèmes de traduction qui existent pour accompagner les demandeurs d'asile. Donc il y a un service qui existe à Paris qui s'appelle ISM Interprétariat et quand les personnes ont besoin de traduction en kurde, en fait les travailleurs sociaux qui accompagnent les kurdes ne savent pas qu'il y a différents dialectes et ne savent pas qu'il faut préciser quand on appelle ISM Interprétariat de quel kurde voilà, on veut pouvoir bénéficier d'une traduction. Donc pour faire simple, on va dire le kurde, mais en tout cas on insiste sur le fait qu'il y a quand même un intérêt aussi pédagogique à parfois utiliser le pluriel pour conscientiser la population générale sur le fait que ce n'est pas une langue sans dialecte et sans variation.
Alors, c'est un point de vue, mais généralement, dans les cours d'appel, ils ont une liste d'interprètes assermentés, de traducteurs. Eux, ils distinguent bien le kurde kurmanji et le kurde sorani.
Mmh. Oui, dans les institutions, dans oui, les mais institutions. Je parlais ici plus des travailleurs sociaux, voilà, etc., voilà. Qui, eux, sont moins au courant.
Et même chez les linguistes, maintenant, on distingue, quand on parle de kurmanji, on dit kurde kurmanji, kurde sorani ou kurde de Melkiz, Araki, etc., Gorani. Voilà, donc...
Alors, il y a un mot que vous avez employé précédemment qui, pour moi, est très intéressant. Vous avez dit une langue minorée. Alors, il y a deux termes qui, à mon sens, vous me contredirez si ce n'est pas le cas, veulent dire la même chose, qui sont minorés et minorisés, mais qui, en tout cas, s'opposent au terme minoritaire. C'est-à-dire que la langue kurde n'est pas une langue minoritaire, dans le sens où elle n'est pas parlée par peu de gens. Par contre, c'est une langue minorée, c'est-à-dire qu'il y a eu un processus pour en faire une langue qu'on souhaite déconsidérer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez dédié un chapitre de votre livre à cette question de comment les quatre pays qui recouvrent une partie du Kurdistan ont eu des politiques qui ont amené à minorer la langue kurde ?
C'était important d'expliquer comment la langue kurde a été au centre des politiques linguistiques de gestion de la question kurde, parce que l'une des premières entreprises, par exemple, que l'État turc dès sa fondation a entreprise, c'est interdire la langue. Christophe Colomb, par exemple, quand il a découvert l'Amérique, il a procédé à une vaste renomination des territoires.
D'ailleurs, vous dites à un moment donné, et c'est très intéressant, qu'on ne peut pas découvrir un espace où il y a déjà des gens, et que ça aussi, c'est un terme qu'il faudrait questionner.
Voilà, donc tout à fait, donc entre guillemets. Et donc, en fait, la langue devient un moyen de prise de possession linguistique d'un territoire, d'une population. Et donc, la langue est au cœur des politiques colonialistes aussi. La présence du français en Afrique, ou la présence de l'anglais en Asie, en Inde, Pakistan, etc. Voilà, tout ça, ça reflète cette histoire colonialiste. Et donc, dans le cas du Kurdistan, les quatre États, par contre, se sont pas positionnés de la même façon. Et juste pour revenir au concept de langue minorée ou minorisée, hein, donc c'est une distinction par rapport à langue minoritaire, c'est une distinction qui a été établie par les chercheurs de l'école rouennaise, sociolinguistique rouennaise, Jean-Baptiste Marcellesi, Louis Guépin, et pour faire référence au processus sociopolitique de minorisation. de domination donc politique et ses conséquences sur la gestion des langues donc dans une communauté de parole. Et donc comment ces quatre États se sont positionnés, donc c'est la Turquie de loin qui a adopté une politique la plus répressive. En voulant carrément même ne plus utiliser le terme kurde, Kurdistan, utiliser la langue dans l'usage oral, écrit. Hein. Ensuite, en Irak, l'État a plus ou moins pratiquer une politique de laisser faire sans une reconnaissance de la langue jusqu'aux accords d'autonomie de 1970. Et donc, à partir de cette date-là, la langue kurde a été reconnue, il y a eu une éducation, et puis à partir de 91, donc les Kurdes ont pu s'autogérer leur territoire, et donc l'enseignement primaire, secondaire et même universitaire est passé progressivement à la langue, et tout ça, ça a été reconnu ensuite par la constitution irakienne de 2005. Du côté de Rojava, de Kurdistan syrien, hein, donc jusqu'à 2012, c'était l'arabisation qui a dominé, l'arabisation des noms de lieux, de aussi des territoires, parce qu'on a prétextant recensement démographique en 1962, le régime baasiste a déchu 300 000 Kurdes de leur nationalité, et donc ils ont perdu leur territoire, leur maison, leurs biens, et à leur place, ce sont les populations arabes qu'on a installées. Donc voilà, une politique d'arabisation. Et depuis 2012, et plus précisément 2014, donc dans les cantons auto-administrés par les Kurdes, donc l'enseignement est passé progressivement à la langue kurde. Donc là aussi, il y a des perspectives intéressantes.
Parmi d'autres langues d'ailleurs, c'est parmi ça qui est intéressant. Langues. C'est-à-dire tout que les Kurdes ont choisi aussi de ne pas reproduire ce qu'ils ont subi. Absolument. En autorisant une pluralité de langues.
Tout à fait. Hein. Donc l'arménien, l'assyrien, l'arabe, hein, donc effectivement, sont reconnus et enseignés, tout comme au Kurdistan d'Irak, d'ailleurs. Le Turkmène aussi, au Kurdistan d'Irak. Et puis, pour terminer sur le Kurdistan iranien, hein, donc, voilà, donc, le régime a joué sur la proximité des deux langues, puisque ce sont le persan et le kurde sont deux langues iraniennes. Hein, il n'y a pas beaucoup de différence entre nous, vous vous sentez très bien en persan, mais c'est oublié que par exemple Jina Amini a été discriminée en raison de son accent. Donc la police a su qu'elle était kurde, d'où la répression farouche dont elle était victime et dont elle est décédée. Et donc les Kurdes sont toujours discriminés en Iran, et c'est un régime malheureusement pour lequel on ne trouve pas de mots pour qualifier l'ampleur de la répression, de la terreur qu'il exerce vis-à-vis de sa propre population, pas seulement kurde, mais aussi les Iraniens eux-mêmes.
Alors, il y a des termes que vous employez et que j'aimerais bien que vous puissiez développer un petit peu, qui sont très intéressants, qui sont ceux de droit linguistique et de glottocide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez recours à cette terminologie pour parler de ce qu'a traversé la langue kurde ?
Alors, on peut aussi parler d'un autre concept, c'est par exemple justice linguistique ou l'injustice linguistique. les droits linguistiques, c'est un linguiste américain, Richard Ruiz, qui a développé trois approches des langues. C'est-à-dire, selon qu'on considère les langues comme un problème, la première approche, selon qu'on considère les langues comme un droit, ou selon qu'on considère la langue comme des ressources. linguistique. Et donc, ce concept de droit linguistique provient un peu de cette typologie-là, qui a été intégrée dans de nombreux instruments internationaux. Il y a plusieurs chartes de l'ONU, de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, hein, donc qui parlent des droits linguistiques, parce que les droits linguistiques sont des droits humains, les plus élémentaires, et l'ONU a nommé un représentant, un rapporteur spécial pour les droits linguistiques. Donc, c'est un collègue en ce moment qui exerce ce mandat, Fernando Varane, qui est linguiste et qui était professeur à l'Université de Moncton au Canada. Donc, droits linguistiques, ce sont des droits inaliénables pour les individus d'exercer les langues, leurs ressources linguistiques librement, c'est-à-dire pouvoir apprendre leur langue maternelle tout d'abord, pouvoir les utiliser dans toutes les sphères sociales, les domaines sociaux, pouvoir nommer leur territoire à travers les mots de leur langue, les points de vue de leur langue, pouvoir nommer leurs enfants avec les noms, les prénoms, etc., pouvoir utiliser cette langue dans le marché, dans l'éducation, dans les médias, voilà, dans tous les domaines de la vie. Voilà, donc c'est un droit qui est de plus en plus pris en compte et dans une société aussi mondiale dont on voudrait qu'elle soit plus inclusive des diversités, mais aussi des diversités linguistiques. Et le concept de droit linguistique vient s'ajouter à cette approche de société plus inclusive, donc inclusive des individus, de leurs différences et de leurs ressources linguistiques.
Et précisément, ces droits linguistiques sont des droits auxquels les Kurdes n'ont pas pu prétendre parce qu'il y a eu cette tentative, plus particulièrement en Turquie, de glottocide. Alors le terme, il a l'air un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire un glottocide ?
Glottocide ou génocide linguistique, hein, ou ethnocide, oui, voilà. C'est constitué de deux termes, hein, donc glott, ça veut dire la langue, et cide, hein, c'est ce qui tue, comme dans génocide. Cides ou pesticides, insecticides, voilà. Donc, et dans le cas donc des politiques linguistiques, ce terme donc désigne l'entreprise délibérée de destruction d'une langue, comme on a pu détruire une grande partie de la population juive avec la Shoah ou le génocide, ou les Arméniens au début du siècle dernier. Donc génocide et glottocide. Donc, c'est la destruction d'une langue. Effectivement, ce qui s'est passé en Turquie, c'est une tentative de glottocide. Et d'après la définition internationale et légale du génocide, ça ne veut pas dire qu'on a détruit entièrement une population, mais une partie de la population, ou même la tentative d'avoir voulu détruire une population, ça fait partie d'une politique génocidaire. Et donc, ce qui s'est passé pour la langue kurde en Turquie, pendant 100 ans, à peu près, donc on a interdit son usage écrit, son usage oral. On a renommé les villes, les régions, les territoires kurdes. On a interdit la musique kurde. On a interdit de nommer les enfants par leur prénom, les pronoms typiquement kurdes. Donc, on a voulu effacer, éradiquer toute manifestation de la langue dans la société, dans la culture, dans la littérature. Et de nos jours, cette politique a partiellement réussi parce qu'on a des générations entières de Kurdes qui n'ont pas pu hériter des rudiments élémentaires de leur langue, qui ne parlent pas du tout leur langue maternelle. Mais cette politique a échoué parce que au bout de 100 ans, la langue est toujours vivante. Elle a fait beaucoup de progrès dans les 30 dernières années. Passage à l'écrit, on a une littérature, un corpus impressionnant, de textes, de productions, etc. Hein. Voilà. Mais l'avenir, effectivement, dépendra plutôt de la population kurde, hein, dans quelle mesure elle saura s'approprier de sa langue et faire de la langue l'un des marqueurs le plus saillant de son identité.
Alors effectivement, là, même si le kurde n'a été favorisé dans aucun des quatre pays qui recouvrent le Kurdistan, on va s'arrêter un petit peu plus particulièrement sur le cas de la Turquie, hein, puisque c'est quand même là où la question de la discrimination a été la plus marquée. Vous avez employé un terme pour décrire la situation en Turquie qui est celui de politique d'homogénéisation ethno-linguistique. Et ce qui va m'intéresser, c'est vraiment homogénéisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit partout pareil, voilà, qu'il n'y ait pas d'hétérogénéité, qu'il y ait de l'homogénéité, et ethno-linguistique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question du peuple, mais c'est aussi la langue que ce peuple parle. Donc, est-ce que vous pouvez un peu développer ce concept ?
Dès sa fondation en 1923, l'État turc s'est lancé dans une politique donc, d'homogénéisation ethno-linguistique. Pourquoi ? Parce que l'État turc est héritier de l'Empire ottoman, en tout cas il se considère comme tel, et l'Empire ottoman était connu notamment par sa structure cosmopolite et hétérogène. Donc l'Empire n'était pas fondé sur un modèle d'État-nation, mais sur l'Oumma, la nation musulmane ou islamique, et le sultan représentait un peu cette nation qui hébergeait aussi plusieurs identités, plusieurs langues, plusieurs ethnies. Hein. Donc l'Empire, par exemple, s'étendait hein, de l'Anatolie jusqu'au Maghreb, jusqu'au Moyen-Orient, et puis était même allé aux portes de Vienne, hein, en Autriche. Voilà, il y avait au moins une centaine de langues parlées durant l'Empire. Et donc, qui ne posait aucun problème, parce que l'idée, c'était pas de faire émerger une nation, hein, mais voilà, ces différentes identités, différentes langues pouvaient trouver, il y avait voilà une forme de la reconnaissance de la diversité. Et donc, l'État turc qui s'est fondé en 1923 s'est lancé dans une politique d'homogénéisation. Hein. Ils sont inspirés un peu de modèles d'État-nation français, hein, diffusés à travers la Révolution. Sauf que, dans le cas de l'État turc, il fallait aussi rehausser le statut de l'homme malade de l'Empire, hein, parce que de l'Europe, hein, l'Empire ottoman était considéré comme un homme malade. L'Empire a été démembré et il y avait des sentiments d'infériorité, de toutes ces choses-là que les Turcs ont voulu retourner. Et donc, d'une part, une politique nationaliste et raciste, donc pour rehausser, disons, le prestige de l'ethnie turque, et de l'autre côté, une politique agressive pour détruire, homogénéiser. Hein, alors, ils ont donc commis des génocides. Ils ont expulsé 300 000 Grecs dans le cadre de cette politique d'homogénéisation. Et les Kurdes, ils ont dit, bon, ils sont musulmans, ceux qui ne souhaitent pas rester, ils vont partir ailleurs, et ceux qui vont rester, ils vont s'assimiler sur le long terme. Et donc, en interdisant la langue, ils espéraient assimiler les Kurdes, et donc homogénéiser ce paysage ethno-linguistique. Malgré cela, de nos jours, on relève encore cinquantaine de langues parlées en Turquie. Hein, donc, cette politique n'a pas réussi.
Alors moi, ce que j'ai découvert en vous lisant, c'est que avec l'arrivée de l'AKP, il y a eu dans un premier temps une politique plutôt plus favorable que ce qu'on avait connu pendant un temps, et que à partir de 2015, quand il y a eu la fin du cessez-le-feu avec le PKK, et plus particulièrement à partir de 2016, quand il y a eu la tentative de renversement, de coup d'État, il y a eu une politique qui s'est à nouveau resserrée. Donc moi, j'avais pas cette notion que en fait l'arrivée de l'AKP avait dans un premier temps été avait apporté des choses bénéfiques, on va dire, sur cette question-là.
Tout à fait. Donc, dès 2003, donc, il y a eu une loi qui a autorisé l'enseignement privé de la langue kurde. Donc, au sein de cette association, c'était une ouverture, bien sûr symbolique, parce que c'était pas du tout la solution à ce moment-là. J'ai eu l'occasion d'expliquer que la langue d'une population de 20 millions ne pouvait pas être enseignée au sein des associations, et qui plus est, moyennant des frais, etc. Mais c'était symbolique parce que jusque-là, plus ou moins, on disait, en fait, cette langue n'existe pas. C'est un amas de mots incompréhensibles, ou alors c'est une langue complètement déformée, métamorphosée. Donc, c'était une reconnaissance implicite de l'existence d'une langue. Les Kurdes n'étaient pas dupes. Ils ont, tout en pensant que c'était pas leur solution, ils ont ouvert des associations, des cours, malgré pas mal d'obstacles que l'administration kémaliste et nationaliste a adressés. Par exemple, dans un centre de langue, n'a pas pu être autorisé parce que la préfecture estimait que la largeur des portes n'était pas conforme à la règle. Voilà. Donc c'était ensuite en 2009, il y a eu l'ouverture d'une chaîne de TV, donc toujours avec sous le gouvernement d'Erdogan, une chaîne émettant 24 heures sur 24 en kurde. Avant cela, il y a eu dans plusieurs universités à Mardin, à Van, Bingöl, etc. Il y a eu la création des chaires d'études kurdes, donc de langue, littérature. Donc effectivement, une politique volontariste qui ressortait de l'abîme une langue dont on niait l'existence, qu'on a combattu pendant des années. Disons, le point culminant, c'était en 2012, lorsque le gouvernement a introduit le kurde dans le système éducatif comme cours optionnel. Voilà. Mais effectivement, après, les choses ont changé. Donc, le gouvernement est revenu sur sa politique d'ouverture. Et de nos jours, voilà, il y a une répression farouche. Même les pièces de théâtre ne sont plus autorisées. Certains concerts sont interdits. Des jeunes qui parlent kurde dans les gares routières ou même dans la rue, dans les grandes métropoles turques, peuvent être agressés et tués. Il y a un climat d'une grande agressivité. Ce que le chercheur Taner Akçam, son livre qui vient de paraître à l'occasion des 100 ans de la République de Turquie, et le livre s'intitule « 100 ans d'apartheid » concernant la politique turque à l'égard des Kurdes et d'autres minorités en Turquie. Et il dit que ce qui était appliqué, c'est une sorte d'apartheid.
Alors, il y a ce paradoxe, du coup, auquel a dû faire face la législation turque, qui a voulu légiférer pour interdire, mais qui, en même temps, voulait nier l'existence même du kurde. Donc, ça veut dire qu'elle devait interdire quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Donc, comment la législation a fait ce tour de passe-passe ? Vous parlez de langue fantôme dans le discours juridique.
Oui, donc parce que décréter que les Kurdes n'existent pas sur le plan politique, voilà, on peut dire, allez, d'accord avec vous, sauf que dans la réalité sociale, ils existent. Et ils existent, ils sont une réalité sociale, une réalité linguistique, une réalité territoriale, et qui plus est, ça pose problème. Et donc, il faut en parler. Et donc, c'est à cette question-là que j'avais consacré ma thèse de doctorat en 95. J'ai soutenu, et donc ma thèse s'intitulait « La désignation du peuple, du territoire et de la langue kurde dans le discours scientifique et politique turc ». Et j'avais analysé dans la thèse les différentes stratégies linguistiques mises en place par l'État turc, par les scientifiques et politiques. Comment aborder une réalité dont on nie même l'existence et même le nom. C'est-à-dire il y a un tabou linguistique institué par l'idéologie officielle. Dans le cas des tabous, c'est que la chose existe, mais il est interdit d'en parler. Et dans le cas du Kurde, des Kurdes, donc les Kurdes existent, il est interdit d'en parler, d'utiliser leur nom. Et donc ils ont utilisé pas mal voilà, de détournements, de périphrases, hein, de stratégies contextuelles, par exemple les Turcs montagnards, nos citoyens de l'Est. Pour le Kurdistan, il y a eu les deux régions administratives, l'Anatolie de l'Est, l'Anatolie du Sud-Est, sachant que l'Anatolie, donc c'est considéré maintenant comme le centre de la Turquie, mais à l'époque de la Grèce antique, l'Anatolie signifiait l'Est déjà.
Donc c'est l'Est de l'Est.
L'Est de l'Est, et donc la région kurde, c'est l'Est de l'Est. Donc voilà, il y a pas mal de paradoxes. Pour la langue, c'est, on disait, ben voilà, un dialecte corrompu du turc ou du persan. Voilà. Et dans ce texte de loi, donc c'est un texte qui interdit l'usage du kurde en Turquie en tant que langue officielle seconde de l'État irakien, parce que après le coup d'État militaire de 80, le législateur a découvert un vide juridique, parce que selon la loi turque, les langues officielles des autres États pouvait être utilisé en Turquie. Et donc le kurde était doté de statut de langue seconde de l'Irak avec les accords d'autonomie de 70. Et ils ont dit ils peuvent faire valoir cette reconnaissance pouvoir au moins dans les publications, dans les musiques ou dans les manifestations, hein, pouvoir l'utiliser. Donc, mais nommer cette langue dans le texte juridique, ça serait revenu à le reconnaître, à la reconnaître. Donc, ils ont fait table rase du nom de la langue, de l'autonyme, en se basant sur une stratégie d'inclusion-exclusion. Donc, sont autorisées et incluses les premières langues des États reconnus par l'État turc, et sont exclues, s'ils existent, les secondes langues, les troisièmes langues. Et comme le kurde, donc c'est une analyse géopolitique qui permettait de comprendre quelle langue était désignée, puisque la langue n'était pas nommée. Hein, et c'est pour ça que j'avais utilisé ce terme de langue fantôme. Hein.
Le dire sans le dire.
Voilà. Mais... voilà.
Alors vous citez, par rapport à cette politique de renommée des lieux et des espaces, trois stratégies qui cohabitent. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous faites un tableau avec des pourcentages pour montrer, selon la situation de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et du Turquie, pour ces quatre pays, quel est le pourcentage qu'elles utilisent pour chacune de ces trois stratégies. Et il se trouve que la Turquie utilise beaucoup plus une de ces trois stratégies que les trois autres pays. Donc je vais citer les trois stratégies. Je voudrais que vous nous expliquiez chacune d'entre elles ce qu'elles recouvrent et pourquoi c'est intéressant de constater que la Turquie en utilise beaucoup plus une des trois que les autres pays. Donc il y a la renomination, l'adaptation et la traduction.
Oui, donc la stratégie la moins douloureuse, on va dire, c'est l'adaptation, parce qu'on va adapter un peu le nom, le toponyme, le nom de lieu. Ça peut être une montagne, le nom d'une ville, d'une rivière. On va adapter son nom à la structure phonétique ou phonologique du turc, par exemple, ou de l'arabe. Et donc, par exemple, Diyarbakir, On l'a adapté au turc Diyarbakır. Il y a eu d'autres types d'adaptations, mais très peu en Turquie. Ensuite, la traduction. Donc l'adaptation, ça garde un lien avec le nom initial. On peut le reconnaître. Donc, on reconnaît l'empreinte territoriale dans le cadre de l'adaptation. Ensuite, traduction,
Est-ce que vous auriez un exemple de traduction?
Golan et Göller, par exemple. Gol, ça, en kurde, c'est ça veut dire lac. Mais il y a eu très peu de traduction aussi. Voilà. Mais ce qui a été le plus pratiqué en Turquie et en Syrie aussi, c'est renomination, c'est-à-dire turquisation et arabisation. Et donc on a renommé les noms, on a renommé les lieux sans tenir compte du nom ancien et sans tenir compte des caractéristiques géographiques des lieux. Donc, une commission a été instituée au sein de l'Institut de la langue turque pour proposer des noms sans aucun lien. Et avec cette renomination, on effaçait toute la mémoire, tout le vécu des habitants et tous les points de vue que ces habitants avaient consignés dans les noms de leurs espaces, de leurs lieux. Et donc, c'est une politique très agressive et dénégationniste.
Du coup, c'est intéressant de constater que même si ces quatre pays adoptent un petit peu de chacune des stratégies, on voit que la Turquie est beaucoup plus dans cette stratégie agressive qui empêche de faire le lien avec le nom d'origine.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, il y a un moment donné dans votre livre où vous évoquez la distinction entre nature et culture, en explicitant le fait que quand il y a des rapports de domination qui sont instaurés, en règle générale, l'entité qui est dominée est celle qu'on rattache à la nature, et l'entité qui est dominante est celle qu'on rattache à la culture. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, qu'on subit également les Kurdes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, parmi les multiples stratégies que les autorités turques ont déployées, c'était l'enrôlement d'un certain nombre de scientifiques dans les recherches de pseudo-étymologie. Et donc, surtout après le coup d'état militaire et la création de cet institut de recherche de la culture turque, donc ils ont mobilisé des professeurs, des maîtres de conférences. Il y en avait une trentaine, donc dans ma thèse, j'explique un peu leurs travaux. Et leur démarche, c'était rattacher la langue, la culture kurde à des phénomènes naturels. Et donc toute une série de théories pseudo-scientifiques ont été mises en circulation, par exemple en prétextant la proximité des formes graphiques de kurde et de kar. Kurde et kar, en turc, ça veut dire neige. Et donc ils ont inventé toute une série de théories en disant en fait le nom kurde, ça veut dire la neige qui ne s'écrase pas. Ou alors le bruit produit par les choses dures comme le cheval mange des herbes ou de l'orge et ça fait kart kurd, etc. Et donc ils ont essayé de rattacher à des phénomènes naturels, à la terre, pour présenter comme un jargon vulgaire. Et c'est ce que avait fait aussi l'abbé Grégoire après la révolution. Donc il avait aussi, c'est une démarche très ancienne, de quand on veut éliminer une langue, on peut instituer des sentiments de culpabilité ou de honte linguistique auprès de ses locuteurs. Et l'abbé Grégoire, en 1794, avait fait une enquête sur les langues de France. Et la démarche, c'était, vous voyez, votre langue est très pauvre, n'est pas armée pour expliquer une pensée complexe, claire. Et alors qu'on a une langue, le français, qui est là. Et voilà. Et donc, pour les Kurdes, quand on arrive à toucher les locuteurs eux-mêmes, à leur faire reconnaître que leur langue est insignifiante, leur langue est inférieure, Leur langue n'est pas une langue. Leur langue n'est pas armée, équipée pour exprimer des choses. Et si cette ces locuteurs-là intériorisent cette infériorité supposée de leur langue, c'est qu'ils ont réussi.
Et c'est aussi que ça va induire que dans les familles, la transmission va moins se faire.
Tout à fait.
Parce qu'on va rattacher cette idée que la langue est insuffisamment noble et qu'il vaut mieux privilégier l'apprentissage d'une langue pour laquelle on a de la considération, qui est une considération construite, en fait.
Tout à fait.
Alors, quelles ont été, face à toute cette adversité, quelles ont été les stratégies qui ont été adoptées par les Kurdes et peut-être plus particulièrement aussi par la diaspora qui réussissait du fait de son emplacement géographique à échapper à toutes ces interdictions pour tenter de préserver la langue kurde?
Donc, la diaspora a joué un rôle très important dans la revitalisation de la langue, la transmission, dans le développement de la littératie, c'est-à-dire le passage d'une langue marquée longtemps par l'oralité, le passage à l'écriture. Et l'école de Stockholm, à partir des années 80, donc a joué un rôle très important avec l'aide et le soutien des gouvernements suédois successifs. Après le coup d'État militaire de 80, donc l'Europe a accueilli une diaspora plus politisée parce que l'immigration kurde était beaucoup plus ancienne, des années 1950-60 déjà. Il y avait des Kurdes qui arrivaient mais en tant que travailleurs immigrés. À l'époque, la France, l'Allemagne, les pays de Benelux, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avaient besoin de la main-d'œuvre étrangère. Mais progressivement, la nature de cette immigration est devenue politique avec les événements politiques qui se sont déroulés au Kurdistan, la campagne Anfal au Kurdistan irakien, la révolution islamique en Iran, etc. Et donc, ces Kurdes qui ont intégré la diaspora étaient souvent des activistes, c'était des instits, des journalistes, il y avait certains, c'était des dirigeants de partis politiques clandestins. Et donc, ils ont trouvé dans la diaspora les moyens matériels et liberté et le soutien aussi des États. Ils ont dit on a perdu un combat, mais au moins on essaie de sauver notre langue. On essaie de documenter notre langue, notre culture, parce que la langue est le support de notre culture. Et ils ont en grande partie réussi leur pari, parce que grâce à leurs travaux, par exemple, le Kurmanji notamment, parce que le Sorani était déjà pris en charge en Irak avec des académies et des universités, mais pour la variété Kurmanji, le Kurde Kurmanji, donc, c'est vraiment le rôle de la diaspora qui a permis son passage à la culture, qui a permis le développement d'une écriture scientifique, un discours politique, on peut le tenir aujourd'hui en Kurmanji, ce qui n'était pas du tout évident il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a des revues même de psychologie, le vocabulaire de la psychologie exprimé en Kurmanji. La mathématique en Kurmanji, le vocabulaire philosophie en Kurmanji. Donc voilà, la diaspora a jeté les bases de ce développement qui s'est poursuivi dans les années 2000-2010 en Turquie, pendant cet intermède de démocratique. Mais de nos jours, on revient encore en diaspora parce que on voit que les conditions d'exercice, donc des libertés, se sont réduites.
Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais vous disiez qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont kurdophones, qui maîtrisent le kurde à l'oral, mais qui ne le maîtrisent pas nécessairement la lecture et l'écriture. Alors, c'est un phénomène assez classique que l'oral, c'est ce qui est le plus facilité. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer vraiment la faiblesse de ces taux, enfin, donner déjà les taux et expliquer pourquoi ils sont si faibles?
Tout simplement, il n'y a pas eu d'éducation. Donc, ce qui frappe, par exemple, quand on compare un Kurde de Turquie et un Kurde d'Irak, quand ils parlent, c'est la fragilité des Kurdes de Turquie. Rien, même à l'oral, parce qu'ils ne sont pas sécures quand ils parlent. Voilà, c'est tout le poids de la politique assimilationniste, de l'insécurité linguistique, de la honte. Et quand un Kurde d'Irak ou même d'Iran parle, bah, ils sont sûrs. Ils parlent, ils n'ont pas du tout, ils vont pas chercher leurs mots, ils vont pas dire ah, est-ce que le mot que j'utilise est correct ou pas, ou voilà. Et c'est-à-dire l'insécurité se manifeste aussi à l'oral, mais à l'écriture c'est encore plus remarquable parce que à part des cercles d'activistes militants très mobilisés et qui ont fait le travail d'apprendre par eux-mêmes ou d'aller suivre des cours dans des associations, ou, etc. Malheureusement, l'immense majorité des Kurdes n'a pas pu apprendre. Des Kurdes de Turquie, hein, je parle, n'a pas pu apprendre la langue par le médium de l'éducation. De nos jours, il y a des Kurdes qui ne maîtrisent pas du tout la langue. Il y a des Kurdes qui ont une maîtrise partielle, hein, ou des rudiments. Donc on a un vaste éventail de types de locuteurs. Hein. Mais effectivement, il y a des Kurdes, notamment ceux qui naissent, grandissent à Istanbul dans les grandes métropoles de Turquie. Voilà, c'est le cas d'une écrivaine et comédienne, Sultan Ulutaş Alope, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a écrit, donc elle est née d'un couple kurde-turc, donc son père est kurde et sa mère turque, et donc elle raconte dans son livre intitulé « La langue de mon père », comment elle a vécu cette honte quand elle était scolarisée à Istanbul dans les écoles, rien que de dire que son père était originaire d'une ville kurde. Les professeurs les incitent, l'associent tout de suite à une origine kurde, et donc elle avait honte. Et il y avait les autres élèves qui les maltraitaient ou les agressaient, voilà. Et donc Sultan Ulutaş, elle est maintenant en France, elle a réappris le kurde. Donc voilà, il y a eu, et cet apprentissage lui a permis de redécouvrir la vie des Kurdes, de se reconnecter à son père, comme elle le dit. Donc voilà, on a des Kurdes, malheureusement, hein, qui sont le produit de ce système, de cette politique assimilationniste, hein, qui n'ont pas pu apprendre leur langue, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas Kurdes.
Alors, je ne sais plus si je l'ai lu ou si je l'ai entendu, du coup je n'ai pas pu retrouver la source, mais il me semble avoir donc lu ou entendu quelque part que un certain nombre de Kurdes avaient honte de leur niveau de maîtrise du kurde par rapport à d'autres Kurdes. Donc c'est-à-dire quelque chose qui est infracommunautaire, qui n'est pas lié à d'autres pays qui ont une politique répressive, et que ça entravait leur possibilité, leur capacité à s'exprimer en kurde. Donc une forme d'élitisme à parler un kurde plus standardisé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ? Alors souvent on emploie le terme de glottophobie, c'est-à-dire le fait de vouloir standardiser une langue au point de ne pas supporter qu'elle ait une forme un peu plus dialectale, le fait qu'il y ait une maîtrise qui est un peu insuffisante. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, vous constatez ?
Oui, malheureusement, on a des groupes qui essayent de pression, hein, qui essayent de coûte que coûte faire émerger une forme standard, parlant là, de kurde kurmanji, donc une forme standardisée et plutôt archaïque. Donc il y a pas mal d'archaïsme qui veut que les usages ont plus ou moins neutralisé et simplifié, et que ils veulent ressortir pour les rediffuser et instituer comme ça une norme abstraite idéalisée. Et c'est très dommage parce que dans la situation actuelle, nous n'avons pas le luxe de ce genre de voilà. Donc en 1900 1933, il y a un linguiste suisse, Frey, qui avait écrit un ouvrage très révélateur. Le titre, c'était « La grammaire des fautes ». Alors que la grammaire, c'est les règles, donc c'était voilà, le titre était déjà à cette époque-là très intéressant, et il prédisait les évolutions de la langue française. Il avait fait un relevé des formes jugées contraires à la norme, aux règles, à la prescription, et son hypothèse était que la langue, dans les usages, dans son évolution, allait se conformer à ces règles d'usage, hein, et se simplifier. Hein. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, au lieu de comprendre que les langues évoluent, et que les langues changent, et que, généralement, le changement se simplifie. Par exemple, la catégorie du genre grammatical, qui est en kurde considérée comme une institution, cette catégorie a disparu, par exemple, de l'anglais, du persan, de l'arménien, d'autres langues. Il y a des langues sans genre grammatical. Il y a le hongrois, le turc, il y a beaucoup de langues. Mais en kurde, c'est considéré comme une règle fondamentale, et certains grammairiens disent que quand quelqu'un confond le genre grammatical masculin-féminin, on sait tout de suite que c'est un étranger, alors que ça peut, il y a de nombreux Kurdes qui confondent le masculin et le féminin. Donc voilà. Et dans certaines régions, il y a un phénomène de neutralisation. Donc il y a déjà la politique répressive de l'État, assimilationniste, qui met tout en œuvre pour éloigner les Kurdes de leur langue, pour distiller l'idée que le Kurde est inférieur, le Kurde est associé à des phénomènes naturels, au bruit, etc. Si de l'autre côté, nos activistes kurdes aussi se rejoignent un peu à ça et disent que en fait, vous devez parler la forme correct, où votre kurde n'a pas de place. Votre parler ne fait pas partie des formes que nous retenons. Bien sûr que déjà ils ont insécure et ils n'ont pas suffisamment de ressources pour parler leur langue. Et bien sûr que ils vont avoir tendance. Moi, je peux parler correctement le turc. Et personne ne m'accusera, ne me reprochera. Dans ce cas-là, je laisse de côté ma langue. Donc, si c'est ça qu'on veut, voilà. Et donc, c'est pour ça, il y a, parallèlement à ce groupe, il y a d'autres activistes qui ont pris conscience et ils disent, un Kurde incorrect est meilleur qu'un Turc correct.
Lorsque vous dites là, ça me fait beaucoup penser à une brochure que j'ai lue hier, qui est sortie il y a quelques mois à peine, et qui a très bien marché, qui a été écrite par un collectif qui s'appelle les linguistes atterrés, et qui a pour titre « Le français va très bien, merci », et qui est vraiment un pamphlet pour essayer de contrer cette panique morale qui peut exister parfois quant au fait que des gens ont des utilisations du français qui diffèrent de la norme établie, en disant « mais en fait, c'est le propre d'une langue », c'est-à-dire qu'une langue qui n'évolue pas, en fait, c'est une langue morte.
Tout à fait.
Merci. Voilà, donc on peut conseiller ce petit pamphlet qui vient un petit peu contrer cette attitude élitiste que peuvent avoir certains avec des attendus en termes de maîtrise de langue qui sont extrêmement classistes aussi. Hein. Alors une toute dernière question pour finir et non des moindres. Quels sont à vos sens les conseils qu'on peut donner, les enjeux qu'il faut mettre en avant pour pouvoir veiller à ce que cette langue qui a été tant discriminée puisse continuer comme elle le fait depuis quelques années maintenant déjà. J'allais dire prospérer, le terme est un peu fort parce que justement on n'en est pas là. Mais voilà, comment faire en sorte que le kurde soit une langue qui soit mieux connue, que les familles continuent aussi à parler le kurde, parce que vous donnez aussi là pour le coup quelques statistiques en montrant bien que de génération en génération il y a de la déperdition. Voilà, comment veiller à ce que le kurde garde toute sa place?
Malgré le tableau un peu noir qu'on a décrit, la langue kurde a un statut de nos jours et qui est nettement meilleure, puisque en Irak, donc, c'est la, une langue officielle. Au Rojava aussi, c'est une langue officielle. Et le kurde, c'est la quatrième langue la plus parlée, donc au Moyen-Orient. Donc c'est quand même une langue qui a aussi un poids démographique de locuteurs, donc 40 millions, c'est pas négligeable là, par rapport aux langues qui sont parlées par des communautés très réduites. La langue, elle est aujourd'hui dotée des moyens technologiques les plus modernes, les télévisions, internet, radio, journaux. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses, et puis aussi beaucoup de manuels dans beaucoup d'universités maintenant à travers le monde. On peut apprendre le kurde, il y a des chaires d'études kurdes, il y a beaucoup de chercheurs kurdes, de linguistes qui se sont formés. Voilà, donc on a un tableau un peu optimiste qui émerge, mais ce qu'on observe dans la diaspora, c'est effectivement l'absence de transmission intergénérationnelle qui s'explique selon les pays, parce que les pays dans lesquels les populations kurdes sont réparties en Europe n'appliquent pas la même politique linguistique. Donc par exemple en Suède, on peut apprendre la langue kurde à l'école, sur le temps scolaire. L'État recrute 500 professeurs de kurde qui ont le statut de fonctionnaire. Ils ont mis au point des méthodes, des manuels, des dictionnaires. Donc, à la radio publique suédoise, il y a des émissions en kurde, à la télé publique. Voilà, donc il y a une reconnaissance. Et en Suède, par exemple, la transmission intergénérationnelle est très, très bien, parce que il y a une prise en charge de l'apprentissage de la langue par l'école. Mais du coup, les familles ne peuvent que favoriser et aider leurs enfants qui reçoivent les rudiments grammaticaux, etc. à l'école et dans la famille et le réseau des relations sociales, donc la langue, voilà. En France, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune possibilité d'enseignement, mais on va dire que aussi le sort des langues régionales n'est pas du tout satisfaisant. Par contre, en Allemagne, maintenant, quand il y a une demande suffisante, les Länder peuvent mettre en place des cours de langue, recruter des professeurs, voilà. Donc il y a des possibilités, et les Kurdes de la diaspora devraient profiter de ces possibilités-là, non seulement pour l'avenir de la langue kurde, bien sûr, c'est une langue qu'on doit, parce que c'est aussi une preuve de la diversité linguistique, mais aussi comme conséquence aussi de la diversité, de la biodiversité, mais c'est pour le bien de leurs enfants. Tout simplement, d'après les recherches scientifiques, et c'est pour cela que la Suède a mis en place cet enseignement des langues d'origine, les enfants qui, d'après ces recherches, les enfants qui apprennent leur langue d'origine peuvent apprendre la langue du pays d'accueil mieux. Ils réussissent mieux leur scolarité. Ils sont plus ouverts à l'altérité. Apparemment, ils commettraient moins de délits. Ils sont puisqu'ils peuvent établir des liens avec leurs grands-parents, leur culture d'origine. Du coup, sur le plan identitaire, ils sont plus stables. Donc, il n'y a que des bénéfices de l'apprentissage de plusieurs langues, mais parmi les langues qu'on peut apprendre, la plus importante, c'est la première langue, parce que c'est à partir de cette langue-là qu'on va voir les autres langues. C'est une grille de lecture-perception qu'on va donner et qui va un peu structurer le parcours langagier des enfants. Donc les autres langues du pays d'accueil, le français en France, l'allemand en Allemagne, etc., peuvent venir s'ajouter sur ces répertoires linguistiques que les enfants peuvent cumuler sans aucun problème. C'est-à-dire on peut apprendre 3 langues, 4 langues, 5 langues, 6 langues sans aucun problème. Il suffit que les enfants soient au contact de ces langues-là. Et quand ils sont jeunes, jusqu'à 7, 8 ans, ils peuvent produire pratiquement toutes les sonorités de toutes les langues. Les oreilles ne sont pas assez rigides encore jusqu'à cet âge-là. Donc voilà, c'est très important pour les familles, c'est pour le bien de leurs enfants. C'est-à-dire, bien sûr, eux aussi, ils peuvent éprouver une satisfaction de pouvoir parler dans leur langue à leurs enfants. Mais c'est aussi pour l'avenir de la langue kurde, parce qu'une langue qui n'est pas transmise de génération en génération, c'est une langue qui peut disparaître à plus ou moins longue échéance. Voilà.
Alors, je me permets un témoignage personnel, puisque moi-même, je suis née issue d'une famille binationale et donc j'ai appris deux langues quand j'étais enfant. Je considère encore à ce jour que c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Voilà, donc ça a déterminé plein de choses pour moi par la suite et ça, je pense, occasionné beaucoup d'opportunités, beaucoup de facilités. Voilà, donc effectivement, je vous rejoins avec ce témoignage personnel pour dire que voilà, transmettez vos langues à vos enfants, c'est important à maintes égards. Donc on rappelle pour finir le titre de votre ouvrage, donc Introduction à la linguistique kurde, vous êtes Sally Akin et donc c'est publié chez Lambert Lucas et on peut aussi retrouver vos écrits en lisant Études kurdes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Merci pour votre accueil, pour l'intérêt que vous avez manifesté à mes recherches et aussi à la langue kurde à travers ce podcast.
Voilà, et puis je le répète encore une fois, mais effectivement, moi je ne suis pas kurdophone et pourtant j'ai vraiment apprécié la lecture de votre ouvrage. Donc vous pouvez le lire, même si vous n'êtes pas kurdophone, vous apprendrez plein de choses passionnantes. Merci.
Merci à vous.
Lutte kurde. Ici et ailleurs, le podcast.